Baruch Spinoza, traité de la réforme de l'entendement et de la voie qui mène à la vraie connaissance des choses. Traduction Émile Cesset, 1814-1863. Avis au lecteur. Ce traité de la réforme de l'entendement que nous te donnons aujourd'hui, cher lecteur, a été écrit depuis déjà longues années. L'auteur a toujours désiré le mener à son terme. Mais d'autres soins l'ont détourné de ce dessein, et la mort enfin l'a forcé de laisser l'ouvrage inachevé. Toutefois, comme il contient un grand nombre de choses utiles autant que belles, et qui, j'en suis certain, ne seront pas d'un médiocre secours aux amis sincères de la vérité, je n'ai point voulu te priver de les connaître. Et en même temps, il m'a paru convenable d'y joindre cet avertissement, afin que tu sois disposé à l'indulgence pour les obscurités et les négligences de style que tu pourras y rencontrer. Adieu. Chapitre 1. Le bien que les hommes désirent ordinairement. L'expérience m'ayant appris à reconnaître que tous les événements ordinaires de la vie commune sont choses vaines et futiles, et que tous les objets de nos craintes n'ont rien en soi de bon ni de mauvais et ne prennent ce caractère qu'autant que l'âme en est touchée, j'ai pris enfin la résolution de rechercher s'il existe un bien véritable et capable de se communiquer aux hommes, un bien qui puisse remplir seule l'âme tout entière après qu'elle a rejeté tous les autres biens, en un mot, un bien qui donne à l'âme, quand elle le trouve et le possède, l'éternel et suprême bonheur. Je dis que j'ai pris enfin cette résolution parce qu'il me semblait au premier aspect qu'il y avait de l'imprudence à renoncer à des choses certaines pour un objet encore incertain. Je considérais en effet les avantages qu'on se procure par la réputation et par les richesses, et il fallait y renoncer si je voulais m'occuper sérieusement d'une autre recherche. Or, supposer que la félicité suprême consiste par hasard dans la possession de ces avantages, je la voyais s'éloigner nécessairement de moi. Et si, au contraire, elle consiste en d'autres objets et que je la cherche où elle n'est pas, voilà qu'elle m'échappe encore. Je méditais donc en moi-même sur cette question. Est-il possible que je parvienne à diriger ma vie suivant une nouvelle règle, ou du moins à m'assurer qu'il en existe une ? Sans rien changer toutefois à l'ordre actuel de ma conduite, ni m'écarter des habitudes communes. Chose que j'ai souvent essayée, mais toujours vainement. Les objets, en effet, qui se présentent le plus fréquemment dans la vie, et où les hommes, à en juger par leurs œuvres, placent le souverain bonheur, se peuvent réduire à trois. Les richesses, la réputation, la volupté. Or, l'âme est si fortement occupée tour à tour de ces trois objets qu'elle est à peine capable de songer à un autre bien. La volupté surtout enchaîne l'âme avec tant de puissance qu'elle s'y repose comme en un bien véritable, et c'est ce qui contribue le plus à éloigner d'elle toute autre pensée. Mais après la jouissance vient la tristesse, et si l'âme n'en est pas possédée tout entière, elle en est du moins troublée et comme émoussée. Les honneurs et les richesses n'occupent pas non plus faiblement une âme, surtout quand on recherche toutes ces choses pour elle-même, en s'imaginant qu'elles sont le souverain bien. La réputation occupe l'âme avec plus de force encore, car l'âme la considère toujours comme étant par soi-même un bien, et en fait l'objet suprême où tendent tous ses désirs. Ajoutez que le repentir n'accompagne point la réputation et les richesses comme il fait la volupté. Plus au contraire on possède ses avantages, et plus on éprouve de joie, plus par conséquent on est poussé à les accroître. Que si nos espérances à cet égard viennent à être trompées, nous voilà au comble de la tristesse. Enfin, la recherche de la réputation est pour nous une forte entrave, parce qu'il faut nécessairement, pour l'atteindre, diriger sa vie au gré des hommes, éviter ce que le vulgaire évite et courir après ce qu'il recherche. C'est ainsi qu'ayant considéré tous les obstacles qui m'empêchaient de suivre une règle de conduite différente de la règle ordinaire, et voyant l'opposition si grande entre l'une et l'autre qu'il fallait nécessairement choisir, je me voyais contraint de rechercher laquelle des deux devait m'être plus utile, et il me semblait, comme je disais tout à l'heure, que j'allais abandonner le certain pour l'incertain. Mais quand j'eus un peu médité là-dessus, je trouvai premièrement qu'en abandonnant les avantages ordinaires de la vie pour m'attacher à d'autres objets, je ne renoncerais véritablement qu'à un bien incertain, comme on le peut clairement inférer de ce qui précède, pour chercher un bien également incertain, lui, non par sa nature, puisque je cherchais un bien solide, mais quant à la possibilité de l'atteindre. Et bientôt une méditation attentive me conduisit jusqu'à reconnaître que je quittais, à considérer le fond des choses, des maux certains pour un bien certain. Je me voyais en effet jeté en un très grand danger qui me faisait une loi de chercher de toutes mes forces un remède, même incertain. À peu près comme un malade, attaqué d'une maladie mortelle, qui, prévoyant une mort certaine s'il ne trouve pas un remède, rassemble toutes ses forces pour chercher ce remède sauveur, quoique incertain s'il parviendra à le découvrir. Et il fait cela parce qu'en ce remède est placée toute son espérance. Et véritablement, tous les objets que poursuit le vulgaire non seulement ne fournissent aucun remède capable de contribuer à la conservation de notre être, mais ils y font obstacle. Car ce sont ces objets mêmes qui causent plus d'une fois la mort des hommes qui les possèdent, et toujours celle des hommes qui en sont possédés. N'y a-t-il pas plusieurs exemples d'hommes qui, à cause de leur richesse, ont souffert la persécution et la mort même, ou qui se sont exposés, pour amasser des trésors, à tant de dangers qu'ils ont fini par payer de leur vie leur folle avarice? Et combien d'autres qui ont souffert mille maux pour en faire leur réputation ou pour la défendre? Combien, enfin, par un excessif amour de la volupté, ont hâté leur mort? Or, voici quelle me paraissait être la cause de tout le mal. C'est que notre bonheur et notre malheur dépendent uniquement de la nature de l'objet que nous aimons. Car les choses qui ne nous inspirent point d'amour n'excitent ni discorde ni douleur quand elles nous échappent, ni jalousie quand elles sont au pouvoir d'autrui, ni crainte, ni haine, en un mot, aucune passion. Au lieu que tous ces maux qui sont la suite inévitable de notre attachement aux choses périssables, comme sont celles dont nous avons parlé tout à l'heure. Au contraire, l'amour qui a pour objet quelque chose d'éternel et d'infini nourrit notre âme d'une joie pure et sans aucun mélange de tristesse, et c'est vers ce bien si digne d'envie que doivent tendre tous nos efforts. Mais ce n'est pas sans raison que je me suis servi de ces paroles. À considérer les choses sérieusement, car bien que j'eusse une idée claire de tout ce que je viens de dire, je ne pouvais cependant bannir complètement de mon cœur l'amour de l'or, des plaisirs et de la gloire.